Donc 2 Pierre 3, page 1390. Bien-aimé, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que les commandements du Seigneur et Sauveur enseignés par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Après une telle lecture, on a presque envie de rien rajouter. Amen. Nous faisons une petite pause dans l'évangile de Marc pour 2 semaines, donc ce soir, et puis dimanche prochain, c'est Paul Harrison qui continuera donc dans la petite série qu'il a commencée à propos de Joseph dans la Genèse. Donc nous avons un dimanche hors série ce soir, et nous allons en profiter pour essayer de nous recentrer sur Dieu et sur sa parole spécifiquement dans nos vies où les interférences sont constantes. Et je vais vous faire une confession, je vais reprendre ce soir un message déjà donné ici il y a quelques années. Et donc pour reprendre le langage du texte, ça éveillera peut-être quelques souvenirs chez certains, sans doute pas la majorité. Ma femme et moi connaissons un couple âgé de notre famille élargie, de notre parenté, qui a décidé il y a plusieurs années d'acheter de la monnaie irakienne, le dinar irakien, et c'est une monnaie qui est aujourd'hui très très faible. Et on leur a fait miroiter la promesse que cette monnaie, le dinar, allait être bientôt réévalué de façon spectaculaire et qu'ils allaient pouvoir échanger cette monnaie contre une fortune et faire fortune ainsi. Il suffit de faire quelques clics sur Internet et puis on voit que c'est une arnaque en fait, complètement. Mais ce qu'il y a de triste dans cette histoire, c'est de voir ce couple persister et persister en dépit du bon sens, dans leur conviction que le dinar va être réévalué malgré les années qui passent. à plusieurs reprises, ils nous ont dit « c'est imminent ». Je me rappelle que lorsqu'on s'est mariés, ma femme et moi, ils étaient là, ils nous ont dit « la semaine prochaine, vous allez voir, le dinar va être évalué ». Et encore il y a quelques mois, ils nous disaient que ça allait être la semaine prochaine. Et ce, année après année. Et donc leur vie entière est focalisée sur cet événement qui n'arrive jamais. Et la question un peu provocante que je voudrais poser ce soir est la suivante. Est-ce que les chrétiens que nous sommes vivent dans le même type d'illusion? La Bible annonce un jour où Dieu va intervenir de façon définitive par le retour de Jésus-Christ pour mettre fin au monde présent et inaugurer un monde nouveau, établir un monde nouveau. Or, depuis que le christianisme existe, évidemment, les sceptiques ne manquent pas à ce sujet. Le retour de Jésus, enfin, soyons sérieux, ne sommes-nous pas là dans le domaine de la légende, nous dira-t-on. Et en fait, c'est une question qu'il faut pas éviter, ça ne doit pas être une question taboue. Au contraire, nous devons, en tant que chrétiens, nous la poser sérieusement pour pouvoir aussi y répondre. Et l'une des préoccupations de l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre, qui n'est pas très connue, se focalisant sur la première, qui est magnifique, mais une petite seconde lettre de Pierre, une de ses préoccupations, notamment dans ce chapitre 3, c'est d'affirmer avec force l'authenticité du message chrétien. Déjà au premier chapitre, il rappelle que en fait, tout ça, ce n'est pas des fables. Il utilise ce mot, ce ne sont pas des fables que nous... Et il rappelle que lui-même, Pierre, il a été témoin des choses dont il parle. Et dans ce chapitre 3, eh bien, à nouveau, il revient sur ce sujet, sur l'authenticité du message chrétien face à ceux qui veulent le déformer, voire le rejeter complètement. Cette lettre, c'est un petit peu le testament de l'apôtre Pierre. Et il veut laisser à ses lecteurs, et plus largement aux chrétiens de toutes les générations, les instructions essentielles dont ils auront besoin, dont nous aurons besoin pour continuer à vivre notre foi, en l'absence des premiers témoins, en l'absence de Pierre, entre autres. Mais Pierre va nous inviter à fixer nos regards sur un horizon plus lointain, surtout inviter les premiers lecteurs à fixer leurs regards sur un horizon plus lointain que son départ à lui, que sa mort à lui, l'avenir ultime du monde. Et le message qu'il adresse à ses premiers lecteurs, en fait, il est tout aussi pertinent aujourd'hui. Alors, quelles sont ces instructions que Pierre nous laisse? Ce soir encore, j'ai été révolutionnaire, on va regarder ça en trois temps. Attachez-vous d'abord à ce que vous avez reçu, ensuite gardez-vous d'être déstabilisé, et enfin préparez-vous à l'intervention ultime de Dieu. Trois exhortations qui résument un peu le propos de Pierre ici. Attachez-vous à ce que vous avez reçu, gardez-vous d'être déstabilisé, préparez-vous à l'intervention ultime de Dieu. D'abord donc, attachez-vous à ce que vous avez reçu. À Paris, il y a un micro-phénomène qui est bien connu. Ce sont ces Parisiens qui un jour ont appris à conduire, qui ont passé et réussi le permis, mais qui ensuite, pendant des années et des années et des années, ne conduisent plus, parce que la vie à Paris ne s'y prête pas. Et bah, au bout de quelques années, ce qui se passe souvent, c'est que ces gens en fait, ne sont plus à l'aise pour conduire. Ils ont beau avoir appris ce qu'il fallait, mais l'absence de pratique régulière leur a fait perdre peu à peu cet acquis. Alors, quand il s'agit de conduite automobile et qu'on a d'autres solutions, ce n'est pas très grave. Maintenant, ce qui serait dramatique, c'est de vivre quelque chose d'un petit peu semblable dans sa vie chrétienne. On commence fort. Au début de la vie chrétienne, on est fervent dans la lecture de la Bible, dans la prière, mais ensuite... d'autres préoccupations font surface. Alors on garde dans un coin de la tête ce qu'on a reçu, mais peu à peu, ça passe du centre à la périphérie, jusqu'à devenir quelque chose, si on force un peu le trait, quelque chose de quasi anecdotique. Et bientôt, pour dire les choses de façon un peu dure, c'est presque comme si on n'avait jamais été chrétien. L'apôtre Pierre est conscient de ce risque, d'autant plus qu'il voit émerger dans les églises auxquelles il écrit, déjà, on est au 1er siècle, 30 ans à peu près après la mort et la résurrection de Jésus, et déjà il y a des enseignements qui s'immiscent dans les églises et qui vont à l'encontre de la foi authentique en Christ. Et le chapitre 2 de cette lettre nous dresse le portrait, alors vraiment sans concession, hein, c'est un texte très sévère, chapitre 2, de ces faux enseignants. Et après cette description, Pierre, au chapitre 3, veut redire à ses lecteurs qu'ils doivent tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, tenir ferme dans la foi? Ben voyons ce que nous dit l'apôtre. Fin du verset 1. Je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. » Au passage, on voit que la foi ne s'oppose pas du tout à l'intelligence. Au contraire, il s'agit d'éveiller une saine intelligence « afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que par le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Ce que Pierre nous dit là est très important et trop souvent oublié. Comment est-ce qu'on va tenir ferme dans la foi ? Comment tenir ferme dans la foi ? Et comment, verset 18, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ ? Et bien pas en se cramponnant à quelques clichés qu'on ressasse et qui nous font du bien pour tenir ferme. Pas en se réfugiant dans l'émotivité, mais plutôt en méditant régulièrement ce que Dieu nous a révélé, les Écritures, et en laissant cela nourrir notre intelligence. L'émotion a sa place, les souvenirs, Pierre en parle ici, mais ce qui est vraiment décisif, c'est de régulièrement s'exposer à la parole de Dieu. Dans le chapitre 1 de cette même lettre, Pierre montre que les prophètes d'Israël, donc pour dire les choses simplement, l'Ancien Testament, convergent avec les premiers témoins de Jésus-Christ, les apôtres, pour révéler Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Petite pépite dans ce chapitre 3, qui est intéressante, c'est de voir au verset 15 que Pierre invite ses lecteurs à relire les lettres d'un autre apôtre, Paul, donc son collègue apôtre Paul, et il invite ses lecteurs à lire les lettres de Paul. Et on voit au verset 16 qu'il qualifie ces lettres d'écriture. En parlant des lettres de Paul, il utilise le mot « écriture ». Autrement dit, la Bible, la révélation de Dieu. On a là une des premières attestations de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Les écrits des apôtres, premiers témoins de Jésus, considérés comme ayant le statut de parole de Dieu. C'est juste une petite parenthèse. Mais tout au long de cette lettre, Pierre ne cesse d'attirer l'attention de ses lecteurs sur leur besoin de la parole, de la Bible. Et c'est un message, évidemment, d'une immense importance pour nous. On l'a déjà dit et je le redis, on vit à une époque où on fait face à une surcharge d'informations. Une telle surcharge d'informations en tout genre qu'en fait c'est difficile de réfléchir parce qu'on est bombardé d'informations. On prend des bribes ici et là, on essaye peut-être de se construire une vision du monde, mais c'est difficile face à toutes ces interférences. Et dans ce contexte, plus que jamais, nous avons besoin que ce qui soit au centre, c'est la parole de Dieu. Une parole qui ne change pas, elle. Une parole qui, lorsqu'on est prêt à vraiment l'écouter, fait taire le murmure incessant, et pas qu'un murmure d'ailleurs, les cris incessants parfois, dont sont remplies nos vies. Et cette parole, elle nous offre un privilège magnifique. Elle nous donne accès, à notre échelle, au regard que Dieu pose sur le monde. Si on veut savoir comment Dieu voit le monde, eh bien c'est dans sa parole qu'il va nous le dire. Et c'est ce regard que Pierre dévoile tout au long de ce texte. En attirant l'attention de ses lecteurs sur l'histoire biblique, sur ce que Dieu a fait par le passé, ce qu'il promet de faire à l'avenir, eh bien, il s'attaque déjà à de fausses conceptions du monde et il ramène les chrétiens à la vérité de Dieu. Alors si nous avons peut-être subtilement, peut-être ouvertement pour certains, commencé à dériver loin des vérités bibliques, il est temps de revenir à la vérité. Laissons cette parole changer notre regard sur notre vie et sur le monde. Peut-être qu'un bon début, ça serait le plan de lecture qu'on a adopté en tant qu'Église, E100. Si vous ne l'avez pas commencé, c'est pas grave, vous pouvez prendre le train en marche. Et puis, ça va à peu près jusqu'à cet été. Vous pourrez toujours rattraper la première partie que vous avez manquée à la fin. C'est un plan donc avec 5 textes, Paul en reparlera tout à l'heure dans les annonces un petit peu, mais 5 textes par semaine, en gros. Peut-être que ça serait un bon début ou un bon retour à la parole de Dieu. Écoutons donc ce que nous dit l'apôtre Pierre et attachons-nous à ce que nous avons reçu. Directement lié à cela, Pierre nous invite à ne pas nous laisser déstabiliser. C'est notre deuxième exhortation, gardez-vous d'être déstabilisés. Au chapitre précédent, Pierre a parlé de faux enseignants, je l'ai dit, qui s'immiscent dans les églises et qui cherchent à détourner les chrétiens de la vérité qui leur a été transmise par les témoins fidèles, en déformant, pas en niant complètement, mais en déformant le message chrétien. Alors, Pierre va encore en parler un petit peu dans ce chapitre. Au verset 16, il va dire un mot sur ceux qui tordent le sens des lettres de Paul, comme ils le font des autres Écritures, et qui le font pour leur propre ruine. Mais il va passer plus de temps, au verset 3 à 9, à répondre plutôt à des moqueurs. C'est sans doute pas les mêmes que les faux enseignants. Là, ici, il ne s'agit pas, a priori, de gens qui enseignent vraiment, mais plutôt des gens complètement extérieurs à l'Église et qui raillent les chrétiens, qui se moquent d'eux pour leur espérance, leur attente du retour de Jésus-Christ. Verset 4. Où est la promesse de son retour ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Autrement dit, alors votre Jésus, c'est pour quand ? C'est pour quand ce fameux royaume dont vous nous parlez ? Parce que bon, depuis que le monde est monde, et puis depuis que Jésus est venu, pas le sentiment que le monde est particulièrement changé. Et ces railleries, évidemment, on peut les entendre sous une forme ou une autre, aujourd'hui encore. Et il faut reconnaître que nous pouvons être mal à l'aise face à cette interrogation. Ça peut nous mettre un peu mal à l'aise. Nous avons cette espérance en Dieu, en Jésus-Christ, dont la Bible nous dit qu'il revient bientôt, mais en attendant, 2000 ans plus tard, la vie continue. Et le monde reste le même. Que penser de cela ? Dans sa pièce de théâtre « En attendant Godot », Samuel Beckett met en scène deux hommes qui attendent un certain Godot. Et ça ressemble bien sûr au mot « Dieu » en anglais, « God ». Et ils attendent. Pendant qu'ils attendent, ils discutent de plein de choses, mais ils attendent Godot. Et la pièce se termine et Godot n'est jamais arrivé. Et ça se veut une illustration d'une vie où on attend Dieu, ou du moins on attend du sens. Et ça n'arrive jamais. Beaucoup de gens estiment aujourd'hui qu'un regard lucide sur le monde, un regard réaliste, dépassionné, ça doit nous conduire à l'athéisme, ou en tout cas à l'agnosticisme, tandis que les croyants, c'est des gens qui s'illusionnent, qui ont besoin de s'inventer une espérance pour supporter l'absence de sens. Très courante cette critique. Se pourrait-il que l'inverse soit vrai ? Se pourrait-il qu'en fait ça arrange les gens, et peut-être nous, soit de nier Dieu entièrement, soit de concevoir un Dieu à notre image, correspondant à nos désirs, plutôt que d'avoir des comptes à rendre à un Créateur. Et Pierre souligne que les moqueries des moqueurs, elles ne sont pas désintéressées. Verset 3, « Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs. Ils ont intérêt à ce que le message chrétien soit faux. » À ce qu'il n'y ait pas d'intervention de Dieu pour juger le monde, à ce qu'il n'y ait rien d'autre que cette vie. Ils ont intérêt. Et c'est pour ça, versets 5 et 6, qu'ils veulent ignorer. Littéralement, ils oublient volontairement qu'il y a un Créateur qui a déjà agi dans l'histoire, qui est à l'origine de toute chose et qui n'est pas indifférent à la vie et aux actes des hommes. Et que l'air même que nous respirons, on le doit à ce Créateur. Que la terre sur laquelle on vit, on la doit à ce Créateur. Que tout ce qui existe vient de lui. L'athéisme veut le beurre et l'argent du beurre. Dans la grande majorité des cas, personne ne se dit athée et agnostique, je respecte les convictions des uns et des autres, hein, bien sûr, mais dans la grande majorité des cas, tout en se disant athée ou agnostique, on veut maintenir l'idée d'un ordre social, des principes moraux qui s'imposent à tous. Les droits de l'homme, par exemple, l'homme a des droits inaliénables. Mais en même temps, on rejette la seule source possible d'une telle autorité supérieure, d'une telle finalité dans l'univers, un Dieu créateur. S'il n'y a personne au-dessus des hommes, il n'y a personne au-dessus des hommes. Pas une autorité morale supérieure. L'athéisme, s'il est cohérent, stipule que tout, absolument tout, n'est que pur hasard. Et ça exclut toute notion d'absolu, toute notion de morale qui s'impose à tous. Dans cette optique, la notion de bien et de mal, par exemple, ne peut être qu'une convention humaine. On se met d'accord sur ce qu'on va décider qui est mal et ce qui est bien, mais dans l'absolu, ça ne correspond à aucune réalité. Rien ne nous dit que c'est mal ou que c'est bien. Tout n'est que hasard. Ça, c'est l'athéisme cohérent. Le fait est qu'on rencontre très peu d'athées qui vont jusqu'au bout de cette logique. Alors, où est l'illusion ? Est-elle dans la croyance à un créateur ? Ou plutôt dans l'ignorance volontaire de ce Créateur. Où est l'illusion ? Pierre rappelle que tout existe par la volonté de Dieu, qui reste souverain sur le monde et sur les hommes. Il rappelle, verset 7, que c'est Dieu qui aura le dernier mot sur l'histoire. et qui jugera un jour tous ceux qui ont rejeté sa parole et sa volonté. Et puis il rappelle aussi que l'échelle de temps de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Et à cette citation biblique assez connue, verset 8, « Au jour du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Il y a de la marge. Et dans un sens, si les contemporains de Pierre, 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, s'inquiétaient déjà de la longue attente de leur retour, alors nous, au XXIe siècle, à combien plus forte raison ? Mais ce qui semble extrêmement long de notre point de vue n'est pas une contrainte ou une difficulté pour Dieu. On peut prendre conscience de ça lorsqu'on commence à s'intéresser un peu aux dimensions de l'univers, complètement inconcevables, des durées, des distances, incroyables. Alors, 1000 ans, 2000 ans, 1 million d'années-lumière, bah pour nous c'est très long. Pour le Créateur qui a fait toutes choses et de qui dépendent toutes choses à chaque instant, c'est dérisoire. Mais l'aboutissement de l'histoire est certain. Verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Pierre reprend une image que Jésus avait déjà utilisée. « Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » Cette image du voleur qui vient, elle met l'accent sur la surprise, on ne s'y attend pas. L'image du ciel qui disparaît, des astres qui s'embrasent, il s'agit d'images bibliques pour évoquer le jugement de Dieu. Pierre ne nous donne pas nécessairement ici une description scientifique de ce qui va se passer à la fin du monde, même si, à vrai dire, on n'en sait rien, peut-être que oui. Mais il affirme que Dieu passera au crible le monde entier et que son intervention sera radicale pour juger le monde et punir définitivement le mal et ceux qui le pratiquent et qui n'ont pas reçu le pardon pour ce mal que Jésus-Christ offre. Mais ce jugement ne sera pas la fin de toute chose. Bien au contraire, verset 13, « Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » En une petite phrase au milieu de son texte, Pierre résume merveilleusement l'espérance chrétienne, l'espérance d'un nouveau monde. On le répète souvent parce que c'est une vérité très méconnue, que ce n'est pas un ciel désincarné que nous attendons, mais un nouveau monde relevant d'une nouvelle réalité concrète, débarrassée du mal. Dieu mettra un point final à l'histoire que nous connaissons et commencera à écrire une nouvelle histoire. Et il nous invite à nous préparer à cet avenir, comme nous allons voir dans un troisième et dernier temps brièvement. Préparez-vous à l'intervention ultime de Dieu. Comment on se prépare à la fin du monde ? Quelques vétérans comme moi se souviendront peut-être du bug de l'an 2000, il y en a qui étaient à peine nés ici, mais cette grande frayeur juste avant le changement de millénaire, beaucoup craignaient que les systèmes informatiques partout dans le monde ne sachent pas intégrer le changement de date, enfin le changement de siècle et de date de 99 à 00, et que ça allait mettre une pagaille terrible partout. Et alors là, beaucoup de personnes, je m'en souviens, beaucoup de personnes ont imaginé un grand crack informatique mondial au point que certains ont accumulé du matériel de survie, des aliments en conserve, etc. Au final, grande déception, il ne s'est quasiment rien passé. Quand on pense à se préparer à la fin du monde, ben on pense à ça souvent, se réfugier dans des abris atomiques, avec des boîtes de conserve et du matériel de survie. Pierre parle ici de se préparer à la fin du monde et on voit qu'il est très loin de ce type de considération. D'abord, il donne à ses lecteurs une explication saisissante de leur attente. Et là, quelque part, on a la réponse à la question « Alors, c'est pour quand ?» On l'a ici, la réponse, verset 9. Enfin, on n'a pas la réponse à « Pour quand ?» mais « Pourquoi l'attente ?» Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si nous attendons encore au XXIe siècle l'intervention finale de Dieu dans l'histoire, le retour visible de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu patiente pour que beaucoup d'hommes et de femmes puissent encore se tourner vers lui. Et là, on a l'explication. En écrivant cela, Pierre semble s'adresser d'abord à l'Église, au lecteur de cette lettre. Il est patient envers nous, selon la plupart des traductions, envers vous, ceux qui sont en tout cas dans l'Église, ceux qui gravitent dans la communauté chrétienne, et a fortiori d'autres évidemment aussi. Pour s'assurer que tous ont bien reçu cette vie nouvelle que Dieu offre et vivent en conséquence. Il est encore temps de se tourner vers Dieu. Il est encore temps de revenir à lui. Et ce soir, il est encore temps de se tourner vers Dieu. Mais un jour, ce sera trop tard. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quand. Mais un jour, ce sera trop tard. Et c'est pour ça que pour Pierre, ce n'est pas en stockant de l'eau et des boîtes de conserve qu'on se prépare à la fin du monde. C'est comment ? Verset 11, on a la réponse. « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Pour Pierre, comme déjà pour Jésus, on se prépare à l'intervention de Dieu par une vie sainte, c'est-à-dire consacrée à Dieu. Ça ne veut pas dire une vie sur les sommets de l'Himalaya où on ne mange pas. Ce n'est pas ça une vie sainte. C'est une vie consacrée à Dieu, centrée sur Dieu. Une vie qui montre qu'on investit dans l'éternité. La question clé pour chacun d'entre nous est la suivante. Si Jésus revenait ce soir, 17 février 2019, ou si nous devions mourir ce soir, comme dit la chanson, demain. Bon, ce soir ou demain, si on devait mourir. Parce qu'en fait, si on y pense un peu, la mort physique, c'est la fin du monde à l'échelle individuelle. Il n'y a plus rien après qui, quelque part, c'est la porte ouverte vers la fin du monde. Et on va se retrouver devant le Seigneur. Donc là, du coup, on se rend compte que ce n'est pas encore des siècles et des siècles, a priori. Si je me retrouvais face à Dieu ce soir, est-ce que je serais prêt ? Est-ce que Dieu me trouvera prêt à l'accueillir ? Prêt à vivre une réalité radicalement nouvelle ? Est-ce que mon attention, mes valeurs, mes choix feront que sa venue sera vraiment bienvenue pour moi ? Est-ce que je peux vraiment dire avec conviction, comme disaient les tout premiers chrétiens, « Viens Seigneur Jésus, viens vite, viens bientôt ». Ou est-ce qu'en fait la venue de Jésus, quoi qu'on en dise, elle viendra plutôt déranger tous nos beaux projets ? Plus nous investissons dans ce qui est éternel, plus nos projets seront en phase avec ceux de Dieu. Et plus nous verrons, et plus nous attendrons son intervention comme la plus belle des perspectives. Et d'ailleurs, si nos projets rejoignent ceux de Dieu, eh bien, ils demeureront pour toujours, puisque les projets de Dieu demeurent pour toujours, au lieu de s'en aller. De façon saisissante, Pierre nous dit au verset 12 que nous pouvons hâter la venue du jour de Dieu, hâter la venue du retour du Seigneur. Parole un peu mystérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au minimum, ça veut dire qu'en centrant nos vies sur Dieu, nous nous préparons activement à son retour. Et du coup, cette perspective, elle devient de plus en plus proche dans notre expérience et dans nos priorités. Mais on peut sans doute aller un peu plus loin que ça. Et dire que de manière mystérieuse, que seul Dieu arrive à comprendre, eh bien Dieu, sans jamais cesser d'être maître du temps et des événements, interviendra lorsqu'il estimera que son peuple est prêt à l'accueillir. Et par conséquent, en vivant des vies centrées sur lui et sa parole, en étant des témoins fidèles de lui dans le monde, eh bien nous hâterons son retour. Sommes-nous prêts à vivre le présent en gardant les yeux fixés sur l'avenir ? Prions. Notre Père céleste, donne-nous de nous préparer à ce jour où nous te verrons face à face. Donne-nous de nous y préparer en vivant des vies dans lesquelles tu es au centre pour nos décisions, pour nos priorités, pour nos valeurs, pour nos convictions, notre manière d'être avec les autres, nos choix. Sois le centre de nos vies, Seigneur. Aide-nous à te placer au centre. Nous avons tant de difficultés naturellement en tant que pécheurs à faire cela. Alors aide-nous à nous tourner à nouveau vers ta parole pour recentrer nos regards sur toi et sur tes projets. Au nom de Jésus. Amen.